Physiologie du goût, variété 1. L'omelette du curé. Tout le monde sait que Madame R. a occupé pendant 20 ans, sans contradiction, le trône de la beauté à Paris. On sait aussi qu'elle est extrêmement charitable et qu'à une certaine époque, elle prenait un intérêt dans la plupart des entreprises qui avaient pour but de soulager la misère, quelquefois plus poignante dans la capitale que partout ailleurs. Ceux-là surtout sont à plaindre, dont les besoins sont ignorés. Car il faut rendre justice aux Parisiens et dire qu'ils sont charitables et aumôniers. Je faisais, en l'an X, une petite pension hebdomadaire à une vieille religieuse qui gisait à un sixième étage, paralysée de la moitié du corps. Cette brave fille recevait assez de la bienfaisance des voisins pour vivre à peu près confortablement et pour nourrir une sœur converse qui s'était attachée à son sort. Ayant à conférer à ce sujet avec monsieur le curé de... point de suspension, elle se rendit chez lui vers les 5 heures de l'après-midi et fut fort étonnée de le trouver déjà à table. La chère habitante de la rue du Mont-Blanc croyait que tout le monde à Paris dînait à 6 heures et ne savait pas que les ecclésiastiques commencent en général de bonne heure, parce qu'il en est beaucoup qui font le soir une légère collation. Madame R. voulait se retirer, mais le curé la retint, soit parce que l'affaire dont ils avaient à causer n'était pas de nature à l'empêcher de dîner, soit parce qu'une jolie femme n'est jamais un trouble-fête pour qui que ce soit, ou bien enfin parce qu'il vint à s'apercevoir qu'il ne lui manquait qu'un interlocuteur pour faire de son salon un vrai Élysée gastronomique. Effectivement, le couvert était mis avec une propreté remarquable. Un vin vieux étincelait dans un flacon de cristal, la porcelaine blanche était de premier choix, les plats tenus chauds par l'eau bouillante, et une bonne, à la fois canonique et bien mise, était là, prête à recevoir les ordres. Le repas était limitrophe entre la frugalité et la recherche. Un potage au coulis d'écrevisse venait d'être enlevé, et on voyait sur la table une truite saumonée, une omelette et une salade. « Mon dîner vous apprend ce que vous ne savez peut-être pas, » dit le pasteur en souriant. « C'est aujourd'hui jour maigre, suivant les lois de l'Église. » Notre ami s'inclina en signe d'assentiment, mais des mémoires particuliers assurent qu'elle rougit un peu. Ce qui n'empêcha pas le curé de manger. L'exécution avait commencé par la truite, dont la partie supérieure était en consommation. La sauce indiquait une main habile et une satisfaction intérieure paraissait sur le front du pasteur. Après ce premier plat, il attaqua l'omelette, qui était ronde, ventrue et cuite à point. Au premier coup de la cuillère, la panse laissa échapper un jus lié qui flattait à la fois la vue et l'odorat. Le plat en paraissait plein et la chère Juliette avouait que l'eau lui en était venue à la bouche. Ce mouvement sympathique n'échappa pas au curé, accoutumé à surveiller les passions des hommes. Et, ayant l'air de répondre à une question que Madame R. s'était bien gardée de faire, « C'est une omelette au thon, » dit-il. « Ma cuisinière les entend à merveille, et peu de gens y goûtent sans m'en faire compliment. »« Je n'en suis pas étonné, » répondit l'habitante de la chaussée d'Antin. « Et jamais omelette si appétissante ne parut sur nos tables mondaines. » La salade survint. J'en recommande l'usage à tous ceux qui ont confiance en moi. La salade rafraîchit sans affaiblir et conforte sans irriter. J'ai coutume de dire qu'elle rajeunit. Le dîner n'interrompit pas la conversation. On causa de l'affaire qui avait occasionné la visite, de la guerre qui faisait alors rage, des affaires du temps, des espérances de l'Église, et autres propos de table qui font passer un mauvais dîner et en embellissent un bon. Le dessert vint en son lieu. Il consistait en un fromage de Semoncel, trois pommes de Calville et un pot de confiture. Enfin, la bonne approcha une petite table ronde, telle qu'on en avait autrefois, et qu'on nommait guéridon, sur laquelle elle posa une tasse de moka bien limpide, bien chaud, et dont l'arôme remplit l'appartement. Après l'avoir siroté, sept, le curé dit ses grâces, et ajouta en se levant, « Je ne prends jamais de liqueur forte, c'est un superflu que j'offre toujours à mes convives, mais dont je ne fais aucun usage personnel. Je me réserve ainsi un secours pour l'extrême vieillesse, si Dieu me fait la grâce d'y parvenir. » Pendant que ces choses se passaient, le temps avait couru. 6 heures arrivaient. Madame R. se hâta donc de remonter en voiture, car elle avait ce jour-là, à dîner, quelques amis dont je faisais partie. Elle arriva tard, suivant sa coutume. Mais enfin elle arriva, encore tout émue, de ce qu'elle avait vu et flairé. Il ne fut question pendant tout le repas que du menu du curé et surtout de son omelette au thon. Madame R. eut soin de la louer sous les divers rapports de la taille, de la rondeur, de la tournure. Et toutes ces données étant certaines, il fut unanimement conclu qu'elle devait être excellente. C'était une véritable équation sensuelle que chacun fit à sa manière. Le sujet de conversation épuisé, on passa à d'autres et on n'y pensa plus. Quant à moi, propagateur de vérités utiles, je crus devoir tirer de l'obscurité une préparation que je crois aussi saine qu'agréable. Je chargeai mon maître queue de s'en procurer la recette avec les détails les plus minutieux. Et je la donne d'autant plus volontiers aux amateurs que je ne l'ai trouvée dans aucun dispensaire. Préparation de l'omelette au thon. Prenez, pour 6 personnes, 2 laitances de carpe bien lavées, que vous ferez blanchir, en les plongeant pendant 5 minutes, dans l'eau déjà bouillante et légèrement salée. Ayez, pareillement gros comme un œuf de poule, de thon nouveau, auquel vous joindrez une petite échalote déjà coupée en atomes. Hachez ensemble les laitances et le thon, de manière à les bien mêler, et jetez le tout dans une casserole avec un morceau suffisant de très bon beurre pour l'y sauter jusqu'à ce que le beurre soit fondu. C'est là ce qui constitue la spécialité de l'omelette. Prenez encore un second morceau de beurre, à discrétion. Mariez-le avec du persil et de la ciboulette. Mettez-le dans un plat pisciforme destiné à recevoir l'omelette. Arrosez-le d'un jus de citron et posez-le sur la cendre chaude. Battez ensuite 12 œufs. Les plus frais sont les meilleurs. Le sauté de l'étance et de thon y sera versé et agité de manière que le mélange soit bien fait. Confectionnez ensuite l'omelette à la manière ordinaire et tâchez qu'elle soit allongée, épaisse et molette. Étalez-la avec adresse sur le plat que vous avez préparé pour la recevoir et servez pour être mangée de suite. Ce mets doit être réservé pour les déjeuners fins, pour les réunions d'amateurs, où l'on sait ce qu'on fait et où l'on mange posément. Qu'on l'arrose surtout de bon vin vieux, et on verra merveille. Note théorique pour les préparations. Premièrement, on doit sauter les laitances et le thon sans les faire bouillir, afin qu'ils ne durcissent pas, ce qui les empêcherait de se bien mêler avec les œufs. Deuxièmement, le plat doit être creux, afin que la sauce se concentre et puisse être servie à la cuillère. Troisièmement, le plat doit être légèrement chauffé, car s'il était froid, la porcelaine soustrairait tout le calorique de l'omelette, et il ne lui en resterait pas assez pour fondre la maître d'hôtel sur laquelle elle est assise.